The French Connection.
Épisode 298 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Steve.
Salut. Bonjour, bonsoir.
Et petit épisode spécial. Cette semaine, on va parler du réseau social sociable, notre réseau, un nouveau réseau qui s'en vient pour le Québec. Et pour ça, on va parler avec Jean-Luc Trussard et Jean-François Poulin. Bonjour Jean-Luc.
Hello, merci de l'invitation à parler du réseau.
Yes, fait que Jean-Luc, tu es enseignant au collégial, puis tu fais une formation de conception en ligne, vecteur et levier. Puis en plus, tu as fait un livre, co-auteur sur un livre de l'IA, Ton allié pour apprendre. Tu nous en parler vite un petit peu de tout ça?
Ouais, à base, je suis prof au collégial en UX, UI, SEO, puis médias interactifs. Donc, tout ce qui touche pas à sécurité. Donc, c'est moi qui apporte des problèmes au TI puis aux gens en sécurité. Puis de l'autre côté, j'ai ma firme de conception de formation en ligne où on développe des formations, entre autres sur l'IA. Puis par ce fait même-là, on a été appelé à écrire un livre sur l'IA parce qu'on trouvait que les jeunes l'utilisaient tout croche. Ils se faisaient dire à l'école que c'était dangereux, qu'il fallait c'était triché. Fait qu'on trouvait important de ramener le débat sur est-ce que tu utilises intelligemment pour apprendre. Oui, merci Jean-François. Donc, c'est dans le fond pour aider les jeunes à bien l'utiliser puis de faire attention à tout, oui, le volet de sécurité, mais le volet de confidentialité qui est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on a publié ça au printemps passé.
Excellent. Merci d'être là. Puis Jean-François, toi, tu es au niveau UX à ton compte.
Explique-moi ouais. Ça fait 30 ans que je suis dans le numérique. Ça fait quasiment aussi longtemps que je suis dans l'UX. En fait, le UX s'appelle le UX, je pense, depuis 2009. Fait que je suis dans UX depuis 2009. Je suis derrière des événements en UX aussi. Tout le monde UX depuis 2009. Mais on l'a arrêté quelque part en 2021. C'est devenu Apéro UX. Je fais un podcast aussi avec Bruno Guglielminetti. Enfin, je fais une chronique UX dans le podcast de Bruno Guglielminetti qui s'appelle Mon carnet. Moi, donc, je fais l'UX. Je suis avec Denis Talbot aussi de temps en temps le mercredi soir. La chronique UX, là aussi. Comme vous voyez, je suis un peu passionné de ça. Puis moi aussi, je donne de mon temps dans Sociable, évidemment. Parce que c'est une belle cause. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Puis à un moment donné, il faut se retrousser les manches. Puis donner ou redonner un peu la société dans laquelle on est. Puis c'est ça. Puis dans mon métier, c'est ça. C'est du UX. C'est de la conception de systèmes complexes, préférablement. Fait que je fais des contrats là-dedans en tant que consultant depuis plus de 17 ans, depuis 2009. Donc, c'est ça. Contactez-moi si vous voulez avoir quelqu'un qui est en charge de votre projet numérique, mais qui surveille ou qui remet l'humain au cœur de l'équation. C'est surtout ça. Je suis pas un tech.
C'est ça le plus compliqué au final.
C'est vraiment ça qui est le plus compliqué. Puis, petite note rapide comme ça, dans le rapport du marché de l'autorité publique, dernièrement, il mentionnait que les gros projets numériques de la province de Québec ont un peu merdé à cause de ce manque d'analyse en amont, de remettre l'humain et les considérations humaines au centre de l'équation. Là.
Puis même quand tu lui dis, il n'écoute pas, il ne voulait pas l'entendre. C'est ça le pire.
J'avais rencontré dans un événement une chargée de projet de la SAQ, je pense, qui m'avait dit, ah, l'équipe UX, on l'a foutu à la porte dès le début du projet. Ils nous emmerdaient avec leurs questions. Ah, ouais, c'est sûr. Ça commence mal, mais c'est ça qu'on fait. On remet en question.
Ouais. Moi, je l'aime, celle qui a fait le projet de la Satellite. Elle a fait de l'agilité à 500 personnes dans une salle. Parfait, ça.
Mmh. Ouais, c'est merveilleux.
Ouais. C'est merveilleux. Mais tout ça pour dire que ouais, on est les trois qui participent à créer ce nouveau réseau sociable. Puis je voulais que vous soyez avec nous ce soir pour en discuter. Puis l'un des grands points, j'ai commencé, en fait, j'ai été intégré via Dominique Sigouin, qui est aussi dans ça, qui est des fois sur notre podcast, que vous devez pas mal tout le monde connaître. Et l'idée au point de départ, c'était d'aider un peu côté sécurité, puis voir comment on peut avoir un réseau social ce qui réduit, si on peut dire, les impacts de ceux d'aujourd'hui, tous les effets dopamine avec les algorithmes, et toute la fraude en ligne, parce que c'est rempli de comptes, de boîtes, avec de la fraude tout le temps. Et donc, voir comment on pourrait réduire ça. Évidemment, tu ne peux pas enlever ça à 100%, mais on peut l'améliorer de grandes manières. Je pense qu'on est sur une bonne direction. Ça, c'était ma vision des choses, de rentrer là pour aider là-dessus. Ça a évolué un peu plus. Là, j'aide au niveau développement, architecture, infra, tout ce qui touche au TI, finalement. Mais j'aimerais ça avoir votre vision, au moins expliquer c'est quoi Sociable. Je pense que vous avez une meilleure description que moi. Et je te laisse parler, Jeff. Yep.
Moi, je suis arrivé dans le projet. Ça faisait déjà 2 ans que ça discutait, que c'était on fondait une OBNL, une coop. Derrière ça, il y avait Patrick Pierra, Steve Proux. Tout le monde est encore là. Oui, c'est quand tu m'as mis devant, ça m'a désarçonné. J'avais oublié que StreamYard pouvait faire ça. Donc, oui, c'est ça. Je suis arrivé l'année passée en avril, puis j'ai vu que, puis on s'entend, là, c'était à la fin du panier bleu avec tous les abus qu'a pu représenter ce projet-là au niveau des subventions, etc. Puis j'ai découvert qu'il n'y avait personne de vraiment technologique dans le projet, qu'il n'y avait personne qui s'occupait vraiment de cet aspect-là, de dire, ben, on s'en va où, on fait quoi, on fait dessus, y a-tu des interfaces? Il n'y avait rien qui avait été fait à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de discussions sur, comme ça arrive souvent dans des gros projets, mais il manquait ce petit morceau-là. Puis ce petit morceau-là, mais gros morceau-là, en fait, parce qu'il regardait acheter potentiellement des technologies, aller chercher du financement à la hauteur de, je pense, 2,5 millions à l'époque. Puis, ce que j'ai injecté un petit peu là-dedans, bien, c'est de dire, bien, est-ce qu'on peut aller chercher des gens qui connaissent la technologie? Puis même moi, je ne me mettais pas dans ce truc-là. On parlait d'aller chercher une personne, un CTO. J'ai dit, on va aller chercher 5 ou 6. Il y a toi qui as levé la main, il y en avait 5 ou 6 autres qui se sont levés la main, puis comme le bénévolat est skillé, ben, il y en a qui sont partis, puis sont venus, puis tout ça. Puis on a réussi à monter quelque chose sous l'auspice du open source, de quelque chose qui allait être fait grassroots, tu sais, pour vraiment essayer de faire quelque chose qui est contraire à tous les gros projets qu'on voit en ce moment, puis à tout ce qui vient dans le numérique, puis on pourrait peut-être en parler aussi, Patrick, de ce qu'on a créé comme flow de création entre le design et le dev, on s'entend, le domaine du numérique, par des exemples comme ça, va changer complètement dans les prochains mois. Là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a pu mettre en place depuis l'année qui vient de passer, autant ça allait très doucement, on intégrait, on y allait avec des méthodologies plus classiques. Quand tu es arrivé, ben, moi j'ai pris connaissance de Cloud Design, j'ai pu refaire toutes les maquettes avec Cloud Design, puis tu les as reprises et passer directement, puis tu pourrais décrire toi-même le flow qui a été mis en place. Mais pour moi, en tant que designer, en tant que personne qui est dans le numérique depuis 30 ans, ça change complètement la donne. Là. C'est là encore, quand tu vas voir des gros projets numériques, ça nous prend des agilistes, ça nous prend des chargés de projet, ça nous prend des architectes d'entreprise, ça nous prend des analystes d'affaires. Puis à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tout ça, considérant ce qu'on est en train de vivre là, où on passe du design directement au code avec quelqu'un comme toi, avec Jean-Luc aussi, qui pourra en dire son bout là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est la donne a changé complètement dans le design, dans la création d'initiatives numériques. Quand même, c'est costaud. Là, on ne parle pas d'une petite app qui va chercher des trucs anodins. On parle d'un réseau social dans lequel on va avoir tout prévu. Puis il n'y a pas personne. Puis tu savais, au début, j'étais très prudent sur cette approche-là. Puis j'ai trouvé qu'on y est arrivé, puis qu'on est quand même capable de poser quelque chose qui n'est pas pire au mieux. Il n'est pas parfait, là, on en parlait encore ce matin, mais c'est pas pire que de mettre 5 développeurs là-dessus pendant un an. Là. C'est les mêmes phénomènes d'un code qui n'est pas nécessairement parfait, d'un code qu'on va devoir peut-être revoir dans 2 ans. Tu sais, mais on est plus rapidement en mesure d'arriver à un prototype utilisable par une clientèle avec cette nouvelle méthodologie-là. Bref, mon implication dans le social, ouais, ça cumule, ça culmine maintenant avec cette arrivée en mode alpha et bientôt en mode bêta.
Puis dans le fond, moi, j'ai embarqué au point de vue du rêve. Là. Donc, on se disait, on voulait avoir un réseau social qui serait éthique, qui serait authentique, qu'on pourrait valider que c'est des vraies personnes qui parlent, qu'il n'y aurait pas de dépendance, qui serait local, que les médias seraient plus obligés de se mettre à genoux devant Meta pour être capable de juste mettre un lien dans leur publication puis plus avoir de portée. Puis, moi, ce qui venait vraiment me chercher, c'était être capable d'avoir le contrôle sur mes données. Actuellement, tous les médias sociaux me volent mes données, les utilisent pour revendre de la publicité, mais je ne consens pas toujours à ça. Donc, au début, c'était vraiment l'idée. Puis là, ben, plus qu'on avance, plus qu'on a fait des maquettes, qu'on a réfléchi, ben, avec l'IA actuellement, avec le workflow que tu as mis en place, Pat, ben, on arrive à pouvoir passer de l'idéation vraiment à concrétiser puis dire, bon, ben, on a quelque chose qui fonctionne, qui est validé par différents agents. Puis, bien, ce que Jean-François voit pas ou ce qu'il voit pendant que je fais quelque chose, tout le monde avec sa vision, plus des agents, bien, on est capable de venir travailler à développer beaucoup, beaucoup plus rapidement, de lâcher les discussions, puis d'arriver à, bien, arriver à un résultat réel qu'on va pouvoir tester. Puis là, ça nous permet d'apporter des questions de fond sur dire, ben, par exemple, ce matin, on parlait, ben, au point de vue de sécurité, l'encryption par tel élément de clavardage, de quelle manière on va le faire, la confidentialité, comment qu'on va traiter, l'algorithme en arrière, ben, on n'en veut pas, mais en même temps, on se rend compte qu'on n'a pas le choix d'en avoir un parce que sinon, on va se faire flouder tout le temps. Comment toutes ces questions-là qui deviennent enfin pas juste de la rhétorique, là, qui deviennent concrètes, là, ça commence à être intéressant de dire, OK, on a un vrai cas problématique, qu'on veut un réseau social éthique, mais comment qu'on fait ça aujourd'hui, un réseau social éthique?
Et si tu permets, ouais. il y a un facteur qui est important aussi, puis qui, moi, m'a attiré dans l'aventure, c'est que c'est une coop. Mm-hmm. Pas que les coops, c'est mon modèle favori, mais coop sans but lucratif, on vise vraiment à servir les gens. Puis, tu sais, quand je disais tantôt, on a aussi fait ça en crowdsourcing, là, qu'on le fait de la base vers le haut. Pour moi, c'est hyper important en 2026. On a quelque chose à prouver idéologiquement que il y a du monde qui peut se mettre ensemble et faire un projet. Puis c'est un projet qui a vraiment un but sociétal. Puis je le dis, puis je sais qu'il y a d'autres initiatives au Québec et au Canada dans cet objectif-là. Mais c'est des équipes précises d'entreprises ou d'organisations, de compagnies de marketing ou peu importe. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis que, comme dirait l'autre, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. À quelque part, il y a un peu de ça là-dedans aussi qui me motive beaucoup à faire ce qu'on fait là en ce moment puis qu'on a fait avec très peu de budget puis qui va nous amener potentiellement avoir une petite équipe. Il n'y a pas la prétention que ça devienne un truc multimillionnaire, mais ça va tenir plus de la coopérative d'agriculteurs là, qui va servir vraiment les gens dans une région, voire la région du Québec. Donc, un autre facteur important aussi, puis je l'ai répété souvent à tout le monde, je l'entendais souvent, ah, mais ça va être une coop, pas de coop, ça va être un réseau social français, québécois, franco-québécois. Et non, ça va être un oui pour le territoire du Québec, mais pas nécessairement français. On vise à avoir l'anglais, espagnol, arabe, les langues atikamekw, peu importe, les langues autochtones, pardon, atikamekw, etc., etc. Fait que c'est, pour moi, ça aussi, c'est hyper important. C'est que c'est quelque chose qui est rassembleur parce qu'on partage au moins le territoire. Mm-hmm. Eux confondus. Fait que c'est des trucs rassembleurs qui viennent de la base. Puis c'est là aussi dans notre modèle qu'on va chercher au niveau d'authentification, c'est d'autres questions business, là, mais qu'on veut avoir des organisations qui vont venir s'arrimer à nous pour valider aussi les utilisateurs. C'est peut-être un peu plus complexe. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille là-dedans. Mais
on peut y aller.
Il y a quelque chose qui n'est pas fait ailleurs et qu'aucun réseau social mondial peut se permettre. C'est parce qu'on est régional qu'on peut arriver à faire ce qu'on veut faire là.
Oui, puis je pense qu'on a toute une vision techno qui comprend les, peut-être pas toutes, là, mais les grands besoins de société. Les écoles, les villes, les grandes associations. On voit leurs besoins. On voit qu'ils sont tous dépendants de Microsoft ou de Google.
Ouais.
Puis on sait qu'on est capable de les remplacer avec pas tant grand-chose.
Et c'est tout le monde a besoin
d'être 99,9999% en ligne tout de suite, mais en termes de features, puis d'être nos données locales, qu'on les possède, qu'il y a de la vie privée puis qu'il y a de la sécurité, je pense qu'on a un gros pourcentage de ça en place. Là.
Ouais. Et tout le monde a un malaise aussi à utiliser ces plateformes américaines ou autres. Il y a un côté colonisé.
C'est Classroom, là, dans les écoles primaires. J'aime le concept de Classroom, mais je suis pas content là, que les kids soient là-dessus. Là, ils ont 6 ans sur ce Classroom, leurs données sont déjà aux US. Là. Ça n'a pas de sens. Là.
Et chatter sur Microsoft, même chose.
Oui, oui. Puis tous les teams dans tous les gouvernements et les villes.
Imposés.
Toute notre bureaucratie, toute notre gouvernance de pays et de province est déjà dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est fou raide, là.
Mais par contre, dans l'intérim, lorsque je lis, j'entends les gens me parler sur la plateforme, qu'est-ce qu'elle apporte, les gens sont conscients. On entend le mot à la mode, là, qui est la souveraineté des données. Ouais. Et de plus en plus, ils veulent adopter une telle plateforme, les gars, comme vous avez monté.
Mais il y a un réveil, justement. Je pense.
Ouais, oui, exactement, ouais. Tu as raison. Mm-hmm. Parce que le laisser-aller, tout le monde le voit, mais tout le monde se sent impuissant. Et ça va commencer avec des initiatives comme ça. Puis j'en ai parlé dans les derniers mois, tu sais, comment est-ce que l'Europe, eux autres, ils l'ont tiré à plug sur Microsoft. Puis là, ils s'en vont de direct. Façon autonome. Ben oui. Puis j'espère que ça va être un effet boule de neige parce que, Christy, Microsoft plante demain matin, le pays au complet, les trois paliers de gouvernance, ils arrêtent de fonctionner. Je le répète encore, tu sais, puis je le dis souvent. Mais c'est ça, la réalité pareille. Fait que d'avoir des PME qui dépendent exclusivement de Facebook. Puis Facebook, ils n'ont-tu pas rien à faire rien à cirer de ces
questions. Ah, si tu n'investis pas des millions dans Facebook, tu n'es même pas un utilisateur.
Et, qu'on dit, et nos politiciens, nos politiciens qui s'expriment sur X, tous nos politiciens sont là. Sans, c'est, oui. C'est non éthique.
Et TikTok.
Et TikTok, c'est, y a un moment, il y a l'éthique, surtout X, là, mais TikTok passe encore, mais TikTok, bon, enfin, oui, je suis d'accord aussi.
La chine, puis,
l'autre affaire, c'est qu'on l'a vu aussi dernièrement, en représailles, il y a des politiciens français et autres à travers le monde, surtout ceux qui sont avec la Cour internationale, qui ont été bannis d'avoir des cartes de crédit, d'avoir des courriels, tout ça, parce qu'ils sont à la merci des Américains.
Oui, exactement.
Avoir un Microsoft, si quelqu'un décide aux États-Unis, hey, t'es plus notre ami, ou si même toute la province, on est complètement à la merci de se faire couper le genre de pique-là, à la limite.
puis pour aller un step plus loin, puis je sais que ça n'a pas rapport avec les réseaux sociaux, mais ceux qui nous écoutent, là, c'est le temps de vous partir une start-up pour recréer Visa Canada.
Ah, OK, oui.
Et carte de crédit Canada, là. On dépend en sacrement des US. C'était ça qui était discuté sur le Discord aujourd'hui. Là.
Et l'Europe, ils l'ont fait le move aussi là-dessus. Là. Ils sont en train de faire une carte, comme tu dis, une carte de crédit
canadienne. Il faut une carte de crédit canadienne, puis il faut un. C'est quoi, j'ai oublié le mot, là, Equifax. Il faut un truc.
Vérification d'antécédent, oui.
Oui, parce que c'est US, ça aussi.
Full, les deux. Là. Mais les il deux. Reste pareil.
Faut bien.
Ce qui arrive, là, malheureusement, c'est qu'encore une fois, comme dans n'importe quel projet technologique ou un projet tout court ici, il y a toujours un manque de liquidité, d'injection de fonds. Et là, quand il y en a un qui débarque avec une valise, qui a passé à la frontière, il dit « moi, je m'en viens investir ici », il n'y a personne qui est capable de les accoter. Le Québec Inc. a de la misère à se soutenir et a de la misère à investir pour redonner. Ouais. Puis on a entendu, là, justement, ça, il y a plein de sièges sociaux qui sont disparus encore.
Oui, mais tu sais, un des points qu'on cherchait, on cherchait une place pour les paiements en ligne canadienne. Puis la seule compétition directe à Stripe refuse de faire affaire avec moi.
Est-ce que t'es un
comment tu veux compétitionner? Oui, je suis vraiment méchant. Pour une plateforme en ligne de sécurité, ils ont refusé ça. Ben, j'ai ouvert Stripe, ils m'ont accepté en 30 secondes. Là. Mais c'est sûr que tu es perdant si tu refuses des clients locaux. Ça n'a pas de sens. Puis là, quand je lis leur règlement, c'est comme ben, pas de porno, puis pas de gambling, puis pas d'armes à feu. Je suis comme si, bon, je suis pas là pour tout. C'est pareil.
Ouais.
Mais c'est là que je trouve le projet est intéressant parce que depuis le départ, tout ce qui a amené les membres de la coop à s'investir, c'est-à-dire, ben, on est en réaction par rapport à des GAFAM. Puis là, ben, on se ramasse à aller vers une action en disant, OK, mais ben, nous autres, comment qu'on peut rendre ça de manière éthique? Comment qu'on pourrait le faire pour que nos jeunes, ben, on n'ait peut-être pas besoin d'avoir une règle de réseaux sociaux en bas de 14 ans ou en bas de 16 ans parce que la plateforme va être éthique, elle va éviter la dépendance, puis il va y avoir des barrières ou des garde-fous qui vont empêcher ces dérives-là. Donc, on peut-tu, dans un projet de société, se donner une plateforme de communication globale qui va arrêter de sortir l'argent du pays pour l'emmener dans des GAFAM qui n'en ont rien à cirer de nous autres? Puis là, ben, prendre cet argent-là pour chacun des organisations, chacune des PME, chacun des ministères, en disant, ben, à la place qu'on va mettre de la publicité sur Facebook, on peut-tu prendre cet argent-là puis la mettre à développer une solution qui va répondre à nos besoins ici puis qu'on va être à l'aise d'utiliser puis qu'on ne se sent pas... j'aurais pas l'impression qu'on m'utilise puis que c'est moi le produit là, à chaque fois que j'utilise la plateforme. Là.
J'ai l'impression que la pensée magique en ce moment, puis j'ai entendu dans des entrevues récemment, puis j'étais un peu pas mal outré d'entendre ça, mais c'était de dire nos données sont souveraines, sont hébergées au Canada ou au Québec. OK, mais qu'est-ce qui drive, qu'on l'a dit tantôt, c'est Microsoft qui est autour de ça. Je l'ai entendu d'un chroniqueur dire, ah non, on peut créer des bulles, je ne sais pas s'il va m'écouter, il ne va pas m'aimer, mais on peut créer des bulles souveraines au Québec, mais je sais que c'est un revendeur Microsoft.
Ça marche pas, ça. Ça marche juste.
C'est ça la pensée magique en ce moment, parce que.
C'est un clown, tu penses.
Qui des grosses compagnies en ce moment qui sont établies à Montréal, qui revendent du Microsoft ou autre solution, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner sur du open source. Ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain.
Non.
Ils vont continuer à vendre du Microsoft, puis ils vont aller sur les tribunes, dans les grands événements de Montréal et Québec, en disant, mais nous, on est souverains.
Ouais,
tu es entièrement souverain ou tu ne l'es pas, là?
Pour continuer ce que tu disais, Jean-Luc, l'affaire de l'âge, là, je l'ai dit dans un des épisodes précédents, mais t'as le groupe, là, âge standard, qui veulent bannir les enfants sur les réseaux sociaux. Je leur ai parlé, là, puis c'est très amical, on se parle de temps en temps, là, mais c'est vraiment pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de frapper Facebook, pas de frapper les jeunes.
Mm-hmm. Bon, trouver une manière.
Non, c'est ça. Puis après une demi-heure de discussion, là, j'y posais les questions, mais ça l'a toujours tourné vers ce point-là. Le point étant la finance. Il dit, mm-hmm. Puis à la fin, il a dit, oui, mais je ne peux pas aller dire à mon client qu'il n'investisse pas dans Facebook, il n'y aura pas les mêmes retours. Je dis, ouais, mais c'est toi qui viens de causer le problème. C'est ta faute, là. C'est toi, le gars de marketing, qui investit avec des clients dans Facebook. Puis là, tu dis que Facebook n'est pas gentil avec les enfants. Bien, c'est l'argent qui drive les features. Tu es coupable à 100%. Puis là, tu t'en vas essayer de faire des lois fédérales pour couper les kids. C'est frustrant.
Mais là, on va voir. C'est toujours une question de courage puis de leadership. Là, on va offrir une solution neutre. Open source. Tout ce que tu veux. Là. Tout souverain, machin, programmé ici. C'est ça. On a la solution. On est en train de la faire. Comme l'Europe est en train de dire qu'ils vont le faire. On verra quelles compagnies s'intègrent font ça derrière. Là. C'est une autre histoire. Mais nous, on offre quelque chose grassroots. Là. Puis dans lequel, qui veut se joindre, venez vous joindre, venez nous aider. On a besoin d'aide. Fait que, de ça, quel politicien, à un moment donné, va pouvoir dire... hypocritement dire le problème c'est Facebook, il faut qu'on mette des règles. Non, attendez, vous avez une option là. Dans les écoles déjà, proposez donc plutôt que de Microsoft, arrêtez d'aller chercher le OS B2, allez chercher la meilleure qualité puis investissez dedans. Il y a quelque chose à faire avec ça. Là.
C'est un problème de société, ça, parce que, encore une fois, les gens, comment on l'a vu dans les 10-15 dernières années, même 20 ans. Je te donne l'exemple avec le téléviseur. Au lieu d'acheter une télévision. Qui ne parle pas avec le reste de la planète, autrement dit, qui ne documente pas les habitudes de consommation, ben il achète la télévision à 500$ parce qu'elle n'est pas chère, mais qu'elle fait 85 pouces de large. Fait que là, il comble un besoin, dans le sens où on est content, tu sais, la grosse TV moderne. Mais fondamentalement, il s'expose pareil. Fait que là, ça clame la souveraineté des données, puis je ne veux pas être un esclave électronique, etc. Mais ils font des choix basés sur les moyens économiques avec lesquels ils peuvent le faire. Ça a même affaire avec toutes sortes de cossins dans la maison. Là. Je veux dire, ils achètent toutes sortes de bebelles, puis tout le monde tripe le techno. Là. Parfait, là, c'est le fun de triper le techno. Là. Mais je crois qu'on est vraiment à la croisée des chemins sur le fait que là, les gens font un choix un peu plus éclairé. Mais par contre, cet éclairage-là, c'est nous qui le fait, et je trouve qu'on ne rayonne pas assez fort pour que ça soit bien entendu. Parce que malheureusement, ça prend un effort supplémentaire pour le comprendre. Puis beaucoup de gens, malheureusement, c'est un constat de longue date fait, ils ont une
fatigue lobby,
mentale, hein? Puis ça ne va pas plus loin.
Aussi. Ouais. Mais tu as raison. Puis ça, c'est tout un concept médiatique, mais plus lobby. Tu sais, en arrière, le côté business, c'est Microsoft qui sont tout le temps là.
Ouais.
Récemment, ils disaient au niveau fédéral, le lobby pour le gaz, ils sont allés parler à Carney presque 2000 fois. Depuis le début de l'année. 2000 meetings. Fait que, tu sais, ça, c'est juste un exemple, mais c'est la même chose pour les Microsoft. Je sais pas les chiffres, mais c'est sûr que c'est pas 5 fois, là.
Vous l'avez vu avec. Moi, j'étais à la ville de Montréal quand Google avait gagné l'appel d'offres pour que ça se devienne la suite bureautique de Montréal.
Ouais, ouais.
Et qui est revenu après avec son crise de lobby? C'est Microsoft qui a réussi à faire retourner la vapeur après même un an et demi, 2 ans quasiment d'installation de Google.
Exact. Ouais.
Microsoft est rentré, puis c'est maintenant Microsoft à la ville de Montréal. Hey, c'est un
gros
lobby, ça. Là.
Jean-François, il me semble que c'est une technicalité dans l'appel d'offres ou d'un contrat.
Bien sûr.
Hein.
Ouais. Bien sûr.
C'est toujours
bien
ça.
Sûr.
Oui.
Mais bien sûr.
En éducation, ça a été la même chose. Là.
Mais il n'y a personne qui a mis ses culottes pour dire ça va faire ce genre de niaisage-là. Ça a juste
ils pas ont de colonne.
Mais non,
pas de colonne.
Ils n'ont pas de leadership.
Ils n'ont pas d'options.
C'est pas vrai. Ils ont peu d'options. Mais le problème, là, on retourne au problème TI. Là. Ben non, on retourne au problème TI. Au gouvernement, c'est de un, c'est les appels d'offres. Il n'y a pas personne B2. Qui a les culottes pour passer à côté du plus bas soumissionnaire. Exact. Mais les gestionnaires n'ont aucune connaissance.
Aucun courage.
Des gestionnaires génériques qui ne comprennent pas la TI. Fait quand ils se font challenger par une compagnie, ouais, qu'est-ce que je fais? Ils font whatever ce qu'ils se font dire. Ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Non.
C'est plate, clair. Là. Mais
ils n'ont pas les ressources.
Ça revient toujours à ça. Ouais.
Ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas le courage.
L'open source, ils ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas quand ça marche.
Hum.
Ben, il faut des politiques qui viennent d'en haut, qui viennent. Tu sais, dans le fond, là, le choix, je regarde dans l'éducation, là, le choix, c'était qu'on avait le choix de Google puis Microsoft dans le temps parce qu'il n'y avait pas d'autres soumissionnaires. Il n'y avait personne qui voulait offrir du cloud. Puis là, ben, nous, en éducation, Microsoft a dit non, non, on vous assure que nos données sont hébergées au Canada. Google n'a pas pu le faire, donc c'est pour ça que là, on a été avec Microsoft. Ouais, OK, il y a peut-être le concept de redondance des données qui doit quand même aller aux États-Unis, j'imagine. Là. Mais dans les choix, à un moment donné, tu y vas avec les options qui sont possibles. Puis là, ben, tant qu'à être en réaction puis devoir s'adapter aux outils, ben, on peut-tu prendre le temps...
Ouais, de ben là, parle-moi pas sur s'adapter aux outils. Là. Non. Il n'y a pas d'affaire de s'adapter aux outils. Tu travailles en TI ou en quelque chose, c'est pas grave de t'adapter, là, dehors.
Ah, c'est clair, mais c'est pour moi, là, tu sais, Facebook, là, je passe ma vie à m'arranger pour que mes publications respectent leur algorithme pour être capable de sortir.
Ouais, c'est ça.
Si j'avais un outil qui serait plus transparent, qui pourrait nous donner accès à l'information de qualité, ouais. Ben on ne serait pas là-dedans, puis on ne serait pas en train de se battre contre un outil, puis on serait en train de travailler pour la mission, la cause, puis les humains.
Puis est dans notre face, l'adaptabilité en ce moment, là, la résistance qu'il y a face à l'IA. L'IA, c'est comme QR. Elle va être evil. Tu peux lâcher un œil avec.
C'est bizarre. Ouais.
Mais on voit, là, il y a autant dans l'UX que dans le dev en ce moment, je vois du monde qui font mm-hmm. Ah oui, mais là, si on fait un SaaS avec l'IA, la sécurité ne sera pas assurée. Si, ça. Ben, c'est pas vrai parce que ce qu'on est en train de faire, on le fait avec toi, Patrick. Tu es un expert en sécurité. Mais il y a des affaires
qui. Oui, mais il y a là le problème. Le marketing de l'IA, c'est que ça fait tout seul. La réalité, c'est que.
Non.
Il n'y a aucune entreprise qui a mis quelqu'un dehors pour l'IA à date. Microsoft et autres ont essayé, mais ils ont tous rengagé à vrai.
Exact.
C'est ça le bug. Hein? Ils se sont tous rendus compte que tu as besoin de quelqu'un avec l'expertise pour le faire. Est-ce que la personne va aller plus vite? Oui, c'est quelqu'un qui est augmenté par l'IA.
Mm-hmm.
Ça se peut que dans 6 ans, ce soit un discours différent, là. Mais aujourd'hui, c'est ça. Là. Fait que si tu veux faire de la sécurité avec AI, puis tu mets Ginette, qui n'a jamais travaillé en TI là-dessus, elle ne sera pas capable. Même si elle dit « Fais de la sécurité dans mon application », ça ne marchera pas.
Et pourtant, c'est avec toi qu'on a cette conversation. Il y a des grandes institutions financières, oui. Je n'aimerais pas à Montréal, qui obligent leurs employés à aller sur l'IA. Puis mesurent le nombre de fois qu'ils vont sur l'IA pour corriger des... C'est du n'importe quoi. On ne crée pas une adaptabilité. On oblige à aller parce que... Puis on dépense des tokens pour je ne sais pas quoi.
Puis je veux dire, la Silicon Valley, c'est les pires dans ça. Il y a 2-3 ans, ils ont tout dit... Across the board dans Silicon, vous devez utiliser l'IA puis d'en faire le plus possible. Go! Puis là, dans la dernière année, c'est on dépense le plus de tokens possible, donc on est hot. Non, t'es le plus incompétent de la gang si t'en dépenses le plus. Ça veut dire que t'as aucune bonne gestion de comment tu fais tes choses.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et donc, en
adaptabilité, c'est la même chose que.
On a des gens qui contre-réagissent complètement avec tout plein d'histoires. Qui, quand moi j'entends parler des gens qui disent mais ça fait. Oui, mais t'as-tu essayé? T'as-tu essayé de l'adapter à ton contexte de travail? Moi, j'ai essayé là, depuis avril, depuis ce qu'on disait tantôt que je fais avec Sociable. Je l'adapte à mes clients et ça fonctionne. Ça. Mais mes interventions en tant que UX, je ne peux pas dire à Claude ou à Magic Pattern que j'utilise des fois, c'est je ne peux pas dire fais-moi une interface de ci et de ça, puis donner 3 pages de pas. C'est pas vrai.
C'est un bon exemple. Morceaux, là.
Vas-y.
J'ai plein de sites que j'ai montés, des applications, je t'en ai partagé une coupe.
Mm-hmm.
Puis, je ne suis pas un expert UX. Fait que ma phrase, c'est la même exemple que de Ginette que je viens de donner, même affaire. J'ai dit, fais-moi une interface qui est UX adaptive, like, qui marche UX, puis ton meilleur UX. Aucune idée quelle question poser, mais j'ai dit, sois le meilleur. Je t'ai envoyé l'interface, tu m'as renvoyé un screenshot une demi-heure après, tu avais 8 questions que Léa est passée à côté, j'avais aucune idée.
Ouais.
Puis, j'étais comme, ouais, OK, ça ne marche pas si tu ne le sais pas.
Exactement.
C'est la même chose en sécurité ou en dev, là, c'est la même chose.
Et elle ne va pas dans l'imagination. Si je lui demande, fais-moi un système de sécurité avec une gestion des groupes, comme ça, elle va me le faire. Puis moi, je sauve un temps énorme à ne pas aller le rechercher dans des vieilles maquettes. Puis non, il me le fait. Mais je vais quand même devoir passer 1 heure ou 2 à tweaker, à arranger. Mais c'est que j'ai quand même passé moins que la semaine où j'aurais probablement passé à adapter des maquettes sur Figma. J'ai plus besoin de Figma. Je fais le système de sécurité, puis c'est fait. Mais quand je lui demande de comprendre le plan, je ne peux pas lui demander de dire assieds-toi avec mon client pendant 1 semaine ou 3 semaines.
Non, ça
marche pas. Puis c'était des questions que je t'avais posées. La première question que je t'ai posée quand tu m'as montré tes maquettes, c'est à qui tu t'adresses? C'est qui tes clients? Pour voir si ce que tu me montres là, ça sert à la cause
de ce
que tu veux faire. Puis c'est là où ça commence, ce genre de travail-là. Puis si on c'est sûr qu'en tant que senior dans le métier, on tire bien notre épingle du jeu. J'ai un peu peur pour les jeunes en ce moment parce que c'est peut-être plus difficile.
Oui, ça, c'est le double tranchant, c'est l'autre bord. Parce que ben là, Jean-Luc, tu vas pouvoir en parler, mais.
Oui, bien, si côté, on va avoir des seniors plus tard, il va falloir avoir des jeunes juniors qu'on va former pour qu'ils deviennent seniors.
Pour les former, pas juste avec les AI, c'est ça le bug.
Pas juste avec les AI, mais c'est ça. Parce qu'à l'utiliser adéquatement, l'IA, c'est une affaire. Puis on le voit avec Sociam, là. Il est super bon pour faire mettre en nos idées, là, le prototype, il est super bon. On va avoir un visuel qui va ressembler à quelque chose vraiment rapide. Mais dès qu'on rentre dans le détail en disant OK, ouais, mais ça, c'est quoi l'impact avec telle affaire, là, on se ramasse.
Allez, puis là.
Il n'est plus là, non. C'est l'humain qui est là.
Parce qu'on n'y a pas donné l'idée complète générale, on y a juste exact. Donné l'interface, mettons. Ouais.
Puis on n'a pas cette
analyse-là. C'est là que ça devient compliqué. Puis... Oui, exact. Puis tu sais, ça fait un an à peu près, je code AI temps plein presque. Puis l'année passée, la première plateforme que j'ai faite, je l'ai donnée à quelqu'un dans le Hackfest. Je lui ai dit, tu la own, update-la. Il l'a changé à 100%, il n'y avait rien de bon. Ça, c'était 3 mois plus tard que je l'avais faite à peu près. Là, je viens de rembarquer dedans pour finaliser les features. Ça n'a aucun rapport, là. C'est plus la même chose que l'année passée. Hein. En l'espace d'une journée, j'ai fait ce que j'ai fait en un mois, voilà un an. Ça fait que la rapidité n'est plus là, ça se comprend meilleur. Évidemment, il y a des agents, il y a des skills, tout va plus loin. Mais le problème encore, c'est que tu deviens un architecte, tu n'es plus un programmeur, tu es un architecte. Puis vu que tu es un architecte, il faut vraiment que tu comprennes qu'est-ce que tu parles. Puis là, comme tu dis, là, quand... Mettons, dans la plateforme, on fait un post, mais le post, il y a des réactions à 6 endroits. Il y a des impacts plutôt à 6 endroits.
Exact.
Il faut que ce soit défini.
Oui.
Il ne peut pas le deviner, là.
Non.
Fait que si tu dis à quelqu'un, la majorité du monde, là, on voit plein de monde se lancer à faire des plateformes puis commencer à vendre plein de plateformes en ligne, là, parce qu'ils aiment ça, les AI. Mais ils sont toutes de base, là. Parce que dès que tu commences à y aller plus avancé, en tant que développeur, tu vas plus vite. Mais c'est pas vrai que tu fais ça en 2-3 semaines. Une vraie plateforme qui se vend, c'est des mois et des mois pareil.
Ouais.
Sauf que ça serait des mois et des mois avec 5-6 personnes, là, tu es peut-être un ou deux. Tu sais, il y a ça, là. Mais...
Par contre, j'étais dans un hackathon qui a été organisé par Soignons la Tech, qui est une initiative qui vient des médecins omnipraticiens du Québec qui ont parti ça il y a un an et demi, d'étudier un peu l'impact des technologies sur leur métier. Puis, vendredi, il y a 2 semaines, j'étais dans un... J'appelle ça un hackathon, mais eux ont appelé ça un hackathon, mais c'est pas vraiment un hackathon parce que tu avais toutes les compagnies de Montréal et Québec qui font du logiciel, il y avait Pétal, Omnimed, plusieurs compagnies comme ça. Puis l'idée du hackathon, c'était de mettre 3-4 personnes de ces compagnies-là en face de 3 cliniciens pour leur faire comprendre le besoin de parler aux gens qui desservent avec leur logiciel. Mais ils avaient aussi pris 50 licences que Lovable avait fournies pour permettre de concrétiser à la fin de la journée les projets sur lesquels les 5 groupes s'étaient lancés. À la fin de la journée, là, c'était plus les gens, les compagnies qui faisaient de l'interface, c'était les médecins. C'était les médecins cliniciens ou autres qui étaient sur Lovable et qui créaient les interfaces. Puis à la fin de la journée, c'était présentable à quelqu'un, un numéro 2, je pense, chez Santé Québec. C'était impressionnant. Évidemment, la mission de mettre les deux groupes en contact.
Ça reste une preuve de concept. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne.
Mais oui. Oui, tout à fait. Mais on peut aussi imaginer qu'on s'en va vers un monde où les subject expert matter, qui sont souvent, pour moi, pas nécessairement les meilleures personnes pour faire de l'interface, ou les project owners ou les product managers qui n'ont pas nécessairement des connaissances de programmation vont peut-être être comme moi, être en mesure de dire, ben moi, j'ai parlé à mes clients, machin, puis le patron, puis voici cette affaire que je veux. Patrick, fais-moi ça. Passe-moi ça dans le cruncher, puis ajoute les features. On est dans un monde où on vient d'enlever là, des layers. Donc, si on parlait tantôt d'adaptabilité, là, l'analyse d'affaires, l'analyse fonctionnelle et autres, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que les étapes de production d'un projet numérique, ils vont changer. Je ne dis pas qu'ils disparaissent, je n'irai pas jusque-là, mais ils vont avoir...
À un moment donné, pas tout de suite.
Non.
Ben, tu
sais... Comme tu disais tantôt, Pat,
ben oui.
On est rendu des architectes. Là. On donne des directions, on organise, on veille à l'assurance qualité, puis après ça, on fait faire la job plate par l'IA, mais... Moi, je suis toujours à mes jeunes, tu ne seras pas remplacé par l'IA. Tu vas être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA, puis qui charge moins cher, ou qui est capable d'en faire plus que toi.
Puis là, ou qui va plus vite, tout simplement.
Workflow, c'est ça qu'on voit. Là. On a réussi, Pat a réussi en une semaine à coder l'interface de Sociable, que ça faisait 6 mois qu'on travaillait dessus. Puis là, cette semaine, on a développé un autre module. Il n'est pas parfait. Là. Il est loin d'être parfait. Il y a plein de bugs. Parce qu'il y a des questions que l'IA n'était pas capable de faire, c'est mais ça. On a un visuel qui se dit enfin, on peut se poser les bonnes questions sur les enjeux en lien avec la plateforme pour la ramener à notre mission première. Puis,
c'est niaiseux dans un certain sens, mais sans ce visuel-là, on ne les avait pas, les questions.
Non. Non, c'est ça. Ça va plus loin
que nos souhaits.
Oui, c'est ça. Ça va. Oui, en fait, moi, pour le prototypage face à mes clients, avant, j'allais dans Figma. Mais Figma, avant d'être capable de relier, la plupart de mes designers, ils ne reliaient même pas les écrans entre eux. Ils faisaient des maquettes, puis ils ne les documentaient pas. Ils ne disaient pas ce que ça faisait. Alors que là, maintenant, quand je fais un prototype dans Claude, dans Magic Pattern ou n'importe quoi, je rentre la raison pour laquelle je veux avoir tel bouton à telle place, puis telle affaire à telle place. Et quand après ça, je leur demande les raisons, puis quoi qui est connecté avec quoi. Là, j'ai un peu le rôle d'analyse que l'analyse d'affaires faisait, mais toutes mes règles d'affaires sont dedans. Ouais. Puis je peux spinner ça alors que toute cette question de prototypage est beaucoup plus évocatrice, beaucoup plus rapidement pour mes clients. Moi, je suis devenu vraiment plus efficace face à mes clients avec des outils comme ça.
Oui, puis et là, la différence, c'est de dire qu'est-ce qui fait quoi. Puis là, ça se construit presque pas par magie, là, mais c'est là que
en
la
fait, le danger, c'est qu'elle va prendre des initiatives et pousser des choses un petit peu plus loin. Puis c'est pas un mauvais danger. Ouais. C'est un danger à lequel il faut être aux aguets parce qu'il va te dire j'ai fait telle affaire. Il ne dit pas en fait.
Mais tu vois, dans ma plateforme personnelle, celle que je suis en train de mettre en place, le problème que j'ai pris dans le dernier mois ou deux, elle s'est mise à complexifier les choses. Mm-hmm. Pas que c'était pas bon, mais à chaque fois que je lisais un plan, j'étais comme même moi, je comprends pas ce que tu dis. Je suis comme qu'est-ce que tu veux dire? Il me le faisait en langage un peu plus simple parce que je suis pas vite. Je dis, c'est pas en tout ça que je t'ai demandé. Mais ça aurait fait le même résultat, mais il me rajoutait 12 fichiers, 500 lignes. J'étais comme, non, fais juste un if si. Ah, mais oui, c'est une belle solution. Je suis comme, mon sacrement.
C'est le danger. En plus, il t'ajoute des permissions. Il te demande des permissions de plus tantôt. Hein? Je dis, j'ai besoin d'aller sur Internet pour faire ça. Non, tu n'as pas besoin d'aller sur Internet pour regarder mon fichier que tu as déjà accès. Là. Donc, la gestion des permissions est super importante. Quand tu utilises l'IA, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Parce que si son terrain de jeu, son carré de sable, tu n'es pas capable de délimiter, il va penser qu'il sait ce qu'il fait. Là.
C'est comme on l'a vu dans les nouvelles. Là. Je ne sais pas si tu l'as dans tes nouvelles, mais là, tu as Anthropic, t'as ChatGPT, puis je ne sais plus quel autre qui est sorti. Nos agents ont piraté d'autres entreprises. Mm-hmm. Personne n'est en prison, by the way.
Non, pas encore.
Toi, là, demain matin, tu pirates une entreprise, tu t'en vends dedans. Eux autres, ils s'en vendent. C'est leur publicité pre-IPO.
Ça a marché.
Ça a marché. J'ai aucun contrôle. Mon affaire marche tout croche, mais c'est solide. L'action monte.
Mais on est en même temps dans un switch. On est dans un sweet spot pour les startups, par contre, qui ne sont pas pris dans les moules. Il y a des grandes entreprises, ça va leur prendre du temps avant de re-questionner les bonnes vieilles méthodologies, vont-ils dire, de l'agilité, de ci, de ça.
Ça, c'est clair.
Faites ce que vous voulez avec ça. Je ne vais pas dire des gros mots, mais continuez à faire comme vous faites là. Mais il y a des startups qui sont en train de démarrer, qu'on sait qu'avec des flows, comme on décrivait tantôt, de l'idéation au prototypage, si tu es pour avoir un investissement de 200 000, tu ne vas pas en mettre 200 000 en programmation, tu vas en mettre peut-être 100 000 en programmation, puis un autre 100 000 en merchandising ou peu importe tout ce que tu as besoin de faire pour aller en mise en marché. Sur 500 000, tu vas en avoir 400 000 en mise en marché puis 100 000 en production. Christy, tu es en business bien plus vite. Oui. Les investisseurs comprennent même pas en ce moment. Mais j'entends des gens dire, j'ai présenté un concept, je ne l'ai pas dit à l'investisseur, ça m'a pris 50 000 du 500 000 qu'ils m'ont donné. Ils ne me croiraient pas si je leur disais que tout est fini maintenant. Alors que c'est un fait. On est dans un monde que même les investisseurs...
C'est un avantage.
C'est un avantage pour l'investisseur, mais il n'est pas prêt à y croire parce que c'est trop hors norme. Donc, on est quand même là. Puis tu sais, on a eu cette problématique-là dernièrement. Si les gens ne croient pas que ça peut aller plus vite avec un flow comme ça, ils vont dire « Ah non, mais il doit y avoir des fers. Ah, mais essayez. »
Ouais. Fall back, l'ancienne méthode. Oui, tout à fait. Puis le problème, c'est de comprendre que c'est vrai que ça peut fonctionner comme ça. Mais qu'il faut vraiment que tu le structures comme il faut. Parce que sans la structure, évidemment, ça fait des choses tout croche. Puis, tu sais, là, je vous ai promis depuis deux, trois semaines des agents meilleurs.
On t'attend.
Je les teste continuellement, puis ils sont pas si bons que ça, la première version. Fait que là, ils s'en viennent bons. Parce que ça change tout le temps. Fait qu'il y a tout le temps, un petit quelque chose que tu te rends compte. Là. Puis là, comme je dis, ça fait un an, j'en fais. Bien, dans ce temps-là, dans cette année-là, il y a plein de choses que je faisais tout croche que j'ai améliorées. Mais moi, fait que moi l'idée, fait... puis c'est de suivre ceux qui codent ce module-là. Ils te disent comment faire, puis c'est assez simple. Là. Mais ouais.
Mais c'est le même paradigme pour le front-end, pour le design. Ça va beaucoup plus vite. Ce n'est pas parfait. Et, le premier commentaire que j'ai fait à un médecin quand j'ai vu qu'il avait 3 pages de prompt, je ne sais pas combien, quand il avait eu le temps de préparer ça, mais il avait fait 3 pages de prompt, puis il allait pitcher ça à l'aide. J'ai dit non, ça ne marchera pas. Puis d'abord, ça se mettait à gratter, puis ça ne bougeait plus, puis il avait l'impression que c'était gelé. J'ai dit non, vas-y, des petits morceaux, teste tes choses. Puis c'est la même chose en design. Je ne fais pas un dessin complet d'un coup, je vais itérer, essayer des affaires, pareil comme un architecte.
Non, exact.
Il y avait avec des petits morceaux. C'est pareil front-end que back-end. Allez essayer. Tester. De toute façon, il nous fait du n'importe quoi quand on met des prompts trop longs. Si je demande 4 corrections en même temps dans un AI, il va faire du n'importe quoi. Ça n'aura pas rapport avec la correction spécifique que j'ai demandé. Il va partir dans 2-3 directions. Non. Je le fais petit morceau par petit morceau. Ça va très bien. C'est un petit peu plus long. Mais c'est là où on en est. Là, il faut s'adapter. Ça revient au sujet qu'on avait tantôt. Il faut s'adapter. Il faut tester. On est en mode test. Il faut travailler intelligemment avec ça et voir comment ça s'adapte à nos façons de travailler.
Puis actuellement, là, les entreprises passent beaucoup, mettent beaucoup d'argent aussi dans OpenAI, Anthropic, pour avoir des outils en ligne qui pourraient se faire en local. Là. Donc, un petit script Python peut faire pas mal d'affaires souvent que...
Oui, oui, oui. Données, puis, OK.
Données, puis de l'information là, privilégiée là, à des entreprises américaines, on peut-tu se développer des scripts locaux qui vont à peu près faire tout ce qu'on a besoin?
Non, mais il y a un truc pour ça, là. Puis, by the way, Anthropic et autres analysent tous vos prompts puis ils réutilisent dans leur affaire.
Oui.
Leur feature, c'est vos features.
Mes idées, c'est leur idée.
Oui, 100%. Mais aujourd'hui, l'AI, on le sait tous, pas d'intelligence. Mais la partie qui a l'air intelligente, c'est le modèle, le LLM, le grand modèle. Ce que vous voyez quand vous chattez ou vous codez, c'est le modèle qui est appelé, puis comment il vous répond. Si vous regardez le détail, là, à chaque fois vous posez une question, il fait un script Python qui roule puis qui vous donne la réponse. Presque 95% du temps. Là.
Oui.
Fait que quand vous développez quelque chose, là, puis que vous lui demandez quelque chose, il va faire un script Python, puis il va le générer en arrière, puis il va vous donner le code ou une réponse, peu importe ce que vous faites. Il va vous donner le résultat. Et si vous faites ces demandes-là presque à tous les jours ou c'est quelque chose de récurrent, vous n'avez plus besoin de l'AI. Tu lui dis, donne-moi le code que tu viens de faire en arrière en Python. Et voilà, c'est ton AI. C'est le même résultat que l'AI va te donner, mais il va être déterministique, il va être fixe. Puis le problème que je vois, parce que j'ai accompagné plusieurs startups en AI, ils s'en vont utiliser des centaines de milliers de dollars en API token. Ils font des appels, puis ils font des appels. Puis là, je check qu'est-ce qu'ils font. Je suis comme, les gars, tu peux remplacer ça par un script Python déterministique qui coûte 50 cents à produire. Puis tu viens sauver ton 10 000 du mois. Là. Oh oui.
Bien, puis tant qu'entraîner quelque chose,
le monde, entraîne là, qui ton écoute, outil. Là. Oui, c'est ça.
Entraîne ton outil qui va pouvoir s'adapter à ce que tu as besoin plutôt que de toujours demander à être dans le nuage, à donner de l'information.
C'est ça. Fait que là, vous allez voir, là, ils ont commencé à en parler. Là, mais la nouvelle mode là, qui s'en vient dans les prochains mois, là, c'est les AI qui s'auto-adaptent tout seul. Savez-vous comment que ça marche? Vous pouvez déjà le faire. Ça fait des mois que vous pouvez le faire. Quand votre script Python qui est déterministique ne marche pas, tu rappelles les AI, tu dis « update-les ». Et voilà, vous avez un robot automatisé qui s'update tout seul intelligemment. Pour vrai, là, c'est un cas, ça va te coûter genre 5 cents par update, puis l'update va arriver peut-être une fois par mois. Ça va être une nouvelle feature qu'ils vont te charger full token. Ça s'en vient.
Ah, tu sais, au début, là, il y avait les GPT, les API, les dossiers, les projets. Tout ça, c'est des scripts Python. Là. Fait que là, si tu es capable de dire, à place de développer un GPT ou n'importe quel outil en ligne, de développer en local un outil, et tu vois qu'est-ce qu'il fait, t'es capable d'avoir un log que tu n'as pas, puis eux autres, ils ne veulent vraiment pas avoir de log parce que s'ils se font poursuivre, ben, oh non, je ne sais pas qu'est-ce que les utilisateurs font avec, mais si tu es capable, c'est ta machine. Moi, je prends l'exemple là, avec mes étudiants posent des questions sur mes cours parce qu'ils ne comprennent pas à ChatGPT ou n'importe quoi. Chat, tu as plus d'informations que moi sur qu'est-ce que mes étudiants ne comprennent pas, puis de mon bord, ben, j'attends, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que de toute façon, quand je leur crée un outil, je n'aurai pas d'informations. Anthropic ou Gemini vont toutes me bloquer.
Fait que toute cette belle discussion-là pour dire qu'on cherche du monde aussi.
Oui.
Pour développer AI dans notre beau réseau social. Puis là, ouais, on tombe à deux. Ben, ouais. C'est un lab en même temps, c'est ça qui est le fun, parce qu'on apprend tout en le développant, puis on l'améliore en même temps.
On a tous appris beaucoup.
Énormément.
Ouais.
Puis ce qui est le fun de tout ça en plus, c'est que là, on tombe vraiment dans le concept de définir l'algorithme, qui est un non-algorithme, mais il en faut un, comme tu disais tantôt, parce qu'on ne peut pas juste dire « voici A à Z toutes les poses ». Tu veux les filtrer, c'est plus un filtre qu'un algorithme, là, ouais. Mais fait qu'il faut comme adapter ça. Alors ça, tu as toute l'hygiène en ligne. Tu peux peut-être l'expliquer un peu, c'est ton design, Jean-Luc.
Oui, ben c'est toute la notion de ce que les entreprises comme Android ou Google avec Android puis Apple avec iOS vendent comme du bien-être numérique, là, qui est juste une feature pour paraître bien. On cherche actuellement à comment amener cette hygiène numérique-là pour ne pas créer de dépendance, pour ne pas amener que les gens passent trop de temps sur la plateforme ou qui rentrent dans des chambres d'écho. Ce matin, là, on en parlait, de dire OK,
ouais, c'était ça, cette
fonction-là, on rentre dans une chambre d'écho, c'est ça qu'on veut, comment qu'on peut ramener ça? Au point de vue de la confidentialité, si ce type de message-là, on a accès à cette donnée-là, on n'est pas supposé parce qu'on veut être transparent et éthique, ça nous amène plein de questions. Puis là, actuellement, juste le bien-être numérique, pour nous autres, on est en train de définir c'est quoi ça du bien-être numérique dans une plateforme éthique? Qu'est-ce qu'on veut que l'utilisateur ait comme information sur son utilisation de plateforme pour se rendre compte que c'est peut-être temps de prendre un break ou ce type de profil-là où c'est la blague dont on disait moi sur la photo que je publie, les gens vont pouvoir, je vais pouvoir voir combien de personnes vont avoir vu la photo. Puis on se dit, OK, c'est intéressant et pour les. S'il y a de la pédophilie ou n'importe quoi, ou je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui regarde ma photo 128 fois aujourd'hui de mon enfant, j'aimerais peut-être ça le savoir. Mais en même temps, au point de vue de la vie privée, ça amène des enjeux. Est-ce qu'on veut vraiment aller là? Est-ce que
cette information soit
disponible? Donc, quand on essaye de régler un problème, on ne règle pas nécessairement le problème. Puis dans le bien-être numérique, c'est de mettre des bons garde-fous dans une plateforme, expérimenter différents garde-fous pour arriver à un résultat qui va nous permettre d'avoir quelque chose qu'on vise à être plus éthique puis qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres plateformes aussi par la suite.
Exact. Parce que tu sais, juste l'affaire des vues, là, c'est de la dopamine par défaut, mais en même temps, c'est de la vie privée puis en même temps, c'est de la sécurité. Tu t'en vas où avec ça?
Fausse bonne idée de chat.
Toutes bonnes les réponses, mais...
Ouais, mais c'est la question qu'on... Ce qui est le fun à se poser pour ceux qui veulent se joindre à nous, c'est que pour la plupart d'entre ceux qui écoutent ce podcast, fort probablement vous travaillez, vous avez une job, vous avez des clients, c'est eux qui mettent la règle de ce qu'ils veulent avoir, puis qui est rarement celle qui bénéficie des humains. Nous, on est en train de créer quelque chose où on prend la population à plat, là, puis on se dit qu'est-ce qui va bénéficier l'humain. Ce qui est hyper rare dans les milieux de travail, puis qui est bien le fun de faire dans ce qu'on fait là, on prend la base, on se dit qu'est-ce qui va bénéficier les gens qui vont venir, parce qu'on n'a pas un agenda caché de exploiter telle donnée ou faire telle chose. Non, au contraire. Ouais. Puis ces réflexions-là sont importantes parce qu'on ne veut pas non plus donner l'impression qu'on est en train d'exploiter par maladresse que les gens.
En fait, l'objectif au final, c'est que l'organisation et le serveur n'aient aucune idée de ce que vous faites.
Exact.
Ça, c'est le endpoint. Ça va prendre plus qu'un an à arriver là. On commence par un chat qui est encrypté end-to-end de A à Z. C'est facile à dire, c'est pas facile à implémenter. Mais essayer de penser comment tu peux avoir une plateforme qui est vie privée et potentiellement encryptée tout en étant publique dans votre chat. Je te partage une photo, mais moi, je suis l'admin de social, je suis pas capable de la voir. Mais si je suis ton ami, je la vois parce qu'elle est publique dans ton feed. C'est beau sur papier, là, mais on ne se rendra pas là facile. Mais c'est ça l'idée qui doit être appliquée à tout, plus le concept d'une vraie personne, plus le concept d'avoir des vérifications et des garde-fous, comme tu expliquais, pour l'hygiène numérique, mais aussi pour pas qu'il y ait de fraude, pour pas qu'il y ait de pédophilie et ces affaires-là. Mais on ne peut pas l'empêcher à 100% à rien. Fait qu'il va comme falloir avoir un petit morceau de tout. Là.
Mais au moins, on va pouvoir garantir aux gens que ce qu'ils vont avoir entre les mains, c'est un outil. Puis qui est neutre. Tu sais, il est pas, tu peux pas jamais dire ça quand tu es sur WhatsApp ou sur Facebook ou autre. Tu es en train d'utiliser quelque chose puis tu te demandes qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le message que je suis en train de passer. Puis rapidement et souvent, on voit qu'après ça, on a de la publicité sur une chose ou une autre. Au moins, ça va être comme un téléphone de la bonne de l'époque où on prenait on avait un téléphone à cadran. Là. C'était un outil que tu ouvrais, qui était un petit peu plate, mais qui servait la cause pour laquelle il avait été fait. Il n'y avait pas il n'y avait pas de cachette derrière. Puis c'est ça, je pense, qu'on essaie de faire, c'est de faire un outil. Ils ne seront pas parfaits au départ. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est un changement de paradigme. Parce qu'on s'est fait dire souvent, « Ah, quand vous allez sortir, il faut que ça soit bon, sinon les gens ne reviendront pas. » C'est pas ça qu'on essaie de faire. Ça se peut que ça soit un peu bancal quand ça sort, mais il faut que les gens comprennent que quand ils vont commencer à l'utiliser, si vous avez le goût de bitcher, venez plutôt nous aider à le faire évoluer. Puis ça va être important que les citoyens en général, puis je pense de toute façon au début ça va être des early adopters, les gens vont venir parce qu'ils sont intéressés à l'utiliser pour des raisons idéologiques, mais il faut que les gens comprennent que ce ne sera pas parfait au départ, mais j'espère aussi qu'on va avoir une petite communauté de plus que peut-être 15-20 personnes qui vont venir nous aider à plein de niveaux, ça serait vraiment intéressant.
Mais malheureusement, tu sais, je fais l'avocat du diable là-dedans, là, Jean-François, puis les gens, moi de plus en plus j'en rencontre, là, puis ils ont la mèche courte avec la tolérance, avec la compréhension. Les gens, ils se font saigner à blanc avec toutes sortes de prix, d'augmentation de prix dans toutes sortes d'affaires.
Tout à fait.
Que là, ils ont plus ils ne voient plus le bon côté des choses. Fait que là, autant la bonté que tu amènes là-dedans un petit peu, là, je ne sais pas pourquoi asseoir ça téléphone. Là.
Mais tout à fait, Steve, c'est complètement. Mais ça, on se l'est fait dire dans les mini-sondages qu'on a fait à date.
Ouais. Okay, nice.
J'ai pas le goût de m'abonner à un nouveau réseau social.
Oui.
Ça, c'est tout à fait dans les considérations qu'on a sur notre liste. Là. On le sait que les gens ne veulent pas aller. Mais en même temps, ce qu'on est en train de concevoir, ce n'est pas tant un réseau social non plus. Ça va être un mix qui va ressembler peut-être à Slack. Il n'est pas tout à fait dans la gamme réseau social non plus. On a quelque chose à prouver. Je suis d'accord avec toi. Ils ne vont pas venir si ça ne marche pas du tout, s'il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Il faut qu'on soit bien balancé quand on va vraiment le sortir à un plus grand public. Mais en même temps, c'est pas un Facebook, c'est pas un Twitter, c'est quelque chose qui va appartenir à eux. Tu sais.
Il y a un élément d'adaptabilité là-dedans, puis ça Absolument. Va être de faire connaître ça et de donner des exemples. Tu sais, accompagner les gens là, qui s'initient à la nouvelle plateforme, c'est certain. Il faut que, tu sais, peut-être, c'est il n'y aura peut-être pas autant de succès chez l'adulte que de commencer ça avec une base un peu plus jeune.
Et tant mieux.
Cette jeunesse-là va évoluer avec la plateforme après ça.
C'est pas mal souvent ça, de toute façon. Moi, si c'est des cégepiens et des universitaires qui rentrent dedans et qui aiment ça, je suis déjà content d'être ici ce soir avec vous, parce que c'est une communauté, disons-le, assez geek. Que Patrick soit là avec nous et que le projet l'intéresse au point d'en parler dans son podcast, je pense que c'est la deuxième ou troisième fois que tu fais ça. Pour moi, c'est déjà un gros gage de quelque chose qui est un bon signe pour tous les gens qui devraient regarder ça de l'extérieur. Moi, je serais cynique si je voyais que c'était une équipe marketing qui faisait ça.
Ah, là,
je vois qu'il y a Hackfest, puis toute la gang, puis tous les devs, puis Patrick Roy qui est venu nous rencontrer la semaine passée. Il y a quelque chose là-dedans. Si tu sais, quand tu sens qu'il y a une communauté geek qui supporte le projet,
ouais.
Je suis content. Puis sur notre CA, on a des gens qui sont de Télé-Québec. Tu sais, il y a des gens un peu partout à droite et à gauche qui ont aussi des intérêts à se dire, il faut que ça marche. Ils sont là de bon cœur parce qu'ils n'ont rien à y gagner réellement en tant qu'institution. Mm-hmm. Mais c'est des gens qui... C'est pas sous-sol multimédia, notre affaire. Là. On n'a pas tous 19 ans. C'est des gens qui ont des
Parce
carrières.
Il n'y aura pas de...
Qui se sont joints à ça.
Là. L'idée, c'est pas de vendre de la pub. Là. Puis non. On a vu d'autres réseaux sociaux qui sortent par des compagnies de marketing. Là. C'est de vendre de la pub. C'est plate, là, mais c'est ça. Là.
Ouais. Effectivement. Il va en avoir cette pub sur cette plateforme-là. Mais on s'entend aussi...
Oui, ça il va y avoir de la pub, mais c'est... Pop-tel. C'est ça. Puis... La plateforme est objective. C'est pas parce qu'il y a de la pub que c'est l'objectif de la plateforme. C'est deux choses différentes. Là.
Oui.
Fait que tu peux faire de la pub, mais c'est pas la manière que la plateforme survit. T'sais. C'est pas du Google, c'est pas du Facebook. Là.
Ouais, puis exactement. La pub, ben, faut revenir à l'objectif. On parle aux besoins. Jean-François, tu as fait beaucoup d'ateliers UX avec des influenceurs, des villes, des.
C'est pas fini.
Il y en a plein. Là. Moi, juste là, moi, je les vendais avec moi, Snapchat, là, m'arrache les yeux quand je vois que sont obligés les jeunes de se créer, d'envoyer une photo de leur iris pour se faire authentifier. Là. Ça me fait capoter que nos jeunes soient obligés d'utiliser ça. Mais quand je présente la plateforme à mes étudiants, à mes enfants, ben ils me disent ben réseau social, c'est mort. Là. Je dis, oh, OK, eux autres, c'est la messagerie. Fait que là, en ayant ce type de commentaire-là, on se dit OK. Oui, c'est vrai. OK, c'est quoi la messagerie actuellement qu'ils utilisent pour communiquer avec eux, entre eux? les données s'en vont où? Puis là, comment m'emmener, tu commences à spinner puis dire, ah, ben, OK, mais pourquoi qu'on n'a pas un système de messagerie à nous? Oui, il y a des SMS, mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Donc, à chaque fois, c'est pas sortir une technologie ou une fonctionnalité qui va servir des impératifs financiers. Il n'y a personne ici qui est payé pour faire ce qu'on fait. On est bénévole, non. On fait ça pour le fun, les soirs, les fins de semaine, parce qu'on fait l'émission. Puis le but, ce n'est pas de faire d'argent avec ça. Le but, c'est de répondre à un besoin. Pourquoi notre ville a besoin de payer Facebook pour être capable de me rejoindre pour dire qu'il y a un bris d'aqueduc en amont de chez nous, il faut que je fasse bouiller mon
eau. Plein ça.
Ben, il y a peut-être un gros questionnement là, en disant comment ça, on n'a pas une plateforme à nous pour être capable de faire ça, puis que mes taxes vont servir pas à enrichir un GAFAM, mais enrichir une plateforme qui va répondre à nos besoins.
Qui nous appartient, oui.
Puis faire travailler du monde un jour, mais en assurance qualité, en sécurité.
Mais je crois que Jean-François vient de dire le mot-clé. S'il développe un sens d'appartenance, c'est de cette façon-là, je crois, qu'ils vont se sentir investis, puis ils vont davantage retourner, puis ils vont dire, « Hey, oui, je vais contribuer. » Tu sais, il y a ça à développer, là. Parce que quand c'est dû encore une fois, tu sais, c'est un parmi plusieurs, puis là, ben, c'est à toi de servir, les gens, ils vont tout simplement l'éliminer, là.
Mais la question qu'on a le plus depuis le début, là, c'est, « Ouais, mais pourquoi j'irais là-dessus? »
Oui.
On se pose nous-mêmes, là, en disant, « Pourquoi j'irais sur ce réseau social-là? Qu'est-ce qui va faire que je vais lâcher les autres réseaux sociaux pour aller là? » On a des pistes, là, mais on n'a pas le starter qui va faire que, « Ah ouais, OK, moi, je lâche tout, je ferme mes comptes, puis je m'en vais là, parce que je sais que, oui, il y a le volet éthique, il y a le volet... »
On le disait tantôt, il y a une phase, une courbe d'adaptation. Là. C'est inévitable. Oui. C'est normal.
Ça ne peut pas être du jour au lendemain.
Ouais. Non, c'est ça. C'est là.
Mais il faut trouver le point qui va faire que les gens vont vraiment décider de dire, OK, oui, la mission, ça fonctionne. Là. OK, être open source, les valeurs viennent me chercher, c'est cool. Mais après ça, qu'est-ce qui fait que je vais passer 15-20 minutes à regarder cette plateforme-là plutôt que les autres? Ben, c'est là. Comment qu'on fait pour attirer les gens?
Mais je pense que le point que tu as dit sur les villes, c'est le point que je disais sur les écoles tantôt, c'est par là qu'il faut aller, parce que c'est sociétaire.
Ouais.
C'est vrai sociétaire. Que c'est pas normal d'aller sur Facebook pour savoir les poubelles, ils passent quand, sacrément. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens.
Non. Je pense qu'il y a un côté très utilitaire qu'on va devoir, mais qu'on est en train, on le sait, là, on est en train de faire ça dans cette plateforme-là qui a pas dans rien. On n'aurait jamais pu faire ça avec un skinny, un mastodon ou un blue sky, ça n'aurait pas fait la même chose. On est vraiment en train de mettre en place quelque chose qui tient, mais il n'y a rien qui... On appelle ça un réseau social pour simplifier ça dans la tête de tout le monde, mais ça va être un peu plus que ça, en fait, de réseau
utilitaire. C'est une plateforme communautaire, là. C'est une plateforme
chose comme
communautaire,
ça.
Techniquement.
Ouais. Il y a pas un nom à inventer. Non, c'est ça. Non. Je pense que la Slovénie, ou je ne sais pas trop, là, où ils sont bien en avance, auraient pu mettre quelque chose comme ça en place. Puis peut-être qu'ils vont vouloir en importer une instance chez eux, mais il y a quelque chose là-dedans qui va servir une communauté québécoise de façon souveraine, de façon utilitaire, surtout, comme tu disais, ça peut être, surtout en changement climatique, de dire, moi, je sais, j'habite à Rimouski, j'ai mis mon code postal, fait que j'ai les alertes autour de moi, je sais qu'il y a un feu, je dois évacuer la ville, c'est là que je vais aller. Ou il y a un enfant qui s'est fait enlever, je vais avoir une alerte là, mais moi, pas au niveau de tout le Québec, faire paniquer tout le monde. Là. Ça va être une alerte régionale, là où je pense que le truc a eu lieu. On a cette opportunité-là de faire quelque chose qui est ancré dans la régionalité, qui est ancré dans le Québec, mais qui va être surtout utilitaire.
C'est un bon point
au BNL. Vas-y, Steve, excuse.
Puis la feature est déjà en plus, là, by the way.
C'est quoi?
Cette feature-là est déjà en place.
En place, exact, oui.
J'allais dire que, dans le fond, on a parlé aux OBNL, là. Puis qui ont des enjeux de recruter des bénévoles, puis qu'au Québec, il n'y a pas assez de bénévolat qui se fait, bien, la plateforme pourrait-tu répondre à ce besoin-là, promouvoir les offres de bénévolat, les besoins de bénévolat, puis d'inciter les gens à participer dans leur communauté? Bien, c'est-tu vraiment si compliqué que ça à faire?
C'est un bon feature, point, par exemple. Puis c'est aussi une question de feature. Dès que tu tombes en concept communautaire, c'est là que ça marche.
Ben oui.
Je le dis souvent avec la Hackfest, trouver des bénévoles, c'est compliqué. Parce que la majorité du monde veut le résultat, ne veulent pas participer à la création du résultat, là, évidemment. Mais dès qu'on va aux événements aux États-Unis, eux, c'est l'inverse. Ils ont trop de bénévoles, il faut qu'ils refusent.
Mm-hmm. Ah ouais.
Mais le concept communautaire aux États-Unis est beaucoup plus grand qu'ici.
Ben,
ici,
on est au Canada anglais aussi, là, je te dirais. Là.
Oui, hors Québec, là, évidemment.
Ouais, c'est ça.
Fait que le monde se parle, c'est très communautaire hors ici. Fait que je pense que c'est la plateforme ou le concept de plateforme qu'il faut mettre en place. Ouais.
Qui pourrait aider. Mais je pense que les gens sont prêts. Il y a plus de bénévoles au Québec, qu'on veut bien le dire, là, dans le sport amateur, tout ça. Il y en a énormément, mais d'être capable de mettre en place une structure qui le facilite. Tu crées un événement, veux-tu participer, veux-tu aider? C'est des petits détails à penser. Je reviens au UX, mais c'est d'avoir deux boutons au lieu d'un pour dire « je veux participer, non, je veux embarquer » parce que l'organisateur d'événement va avoir dit « moi, je veux avoir 20 bénévoles qui font ci, ça, ça ». Puis si tu dis « je veux aider », ben tu vas être mis automatiquement. Moi, le nombre de fois où j'aurais aimé offrir de l'aide, tu vois par où commencer, qui appeler, tu sais, « hey, j'ai un petit piton là, puis je peux aider, Colin. Je vais être une heure à l'avance, les instructions me sont envoyées. » C'est des détails à réfléchir à l'avance. Quand on y pense, quand on fait un système comme ça sur une base communautaire et utilitaire, c'est certain que c'est le genre de petits trucs comme, tantôt on parlait des alertes, il y a des alertes, si tu es inscrit dans une ville ou tu es inscrit avec un ordre professionnel ou autre, tu vas avoir des alertes en lien avec ça sur ton réseau à toi. Ça a l'air anodin, ça a l'air un peu niaiseux à dire, mais c'est là, ton alerte va apparaître en haut dans ton fil de nouvelles, dans ta messagerie. C'est un détail, mais c'est un détail qu'il faut avoir réfléchi à l'avance quand on le fait, ce qu'on a fait.
Plus qu'on parle à des partenaires, plus qu'on se rend compte qu'il y a des besoins qui n'ont pas les solutions ou que les solutions ne sont pas adaptées. Donc là, c'est en regardant avec la plateforme, en disant, OK, nous autres, on a l'impression un réseau social, là, mais comme tu disais, Pat, tantôt, ben c'est
une plateforme.
Une plateforme communautaire, là, ben comment on peut répondre à des besoins criants pour des organisations, les médias qui ne peuvent pas publier leurs nouvelles parce qu'il faut mettre un lien dans les commentaires et qu'il n'y a plus personne qui les voit, les PME qui mettent beaucoup d'argent pour avoir un ROI qui est phénomique ces réseaux sociaux, mais qui ne se font pas voir pour encourager le commerce local, bien, on se rend compte que plus qu'on parle de la plateforme, plus qu'il y a des besoins que celle-ci pourrait répondre, mais on n'a pas l'équipe, on n'a pas les bras pour être capable de tout mener ça d'un front. Puis là, bien, il faut être capable de le structurer pour arriver avec un produit, un MVP, là, qui va être au moins fonctionnel, qui va répondre à certains besoins. Puis après ça, ben c'est plus facile de développer puis ajouter des features qui vont répondre à des besoins puis qu'il y a peut-être des partenaires qui vont pouvoir dire, ben bien-être numérique, là, moi, je suis seul chez nous à travailler là-dessus, mais il y en a des spécialistes là, sur le bien-être numérique, il y en a des spécialistes sur le bénévolat, sur l'engagement qu'on va pouvoir à terme peut-être aller mobiliser puis impliquer dans le projet pour répondre à ces éléments-là.
Yes. Steve, as-tu d'autres points qu'est-ce que tu en penses?
Non, moi, je crois qu'on avait couvert beaucoup en expliquant davantage qu'est-ce qui est derrière l'intégration de cette plateforme-là. Puis, plus qu'on en parle, plus qu'on le met en démo, j'espère que tu les as réservé un créneau durant Hackfest parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir du hands-on puis après ça, avoir un atelier live puis leur expliquer, regarde, si tu vas là, tu fais ça, etc., ça va se propager. Puis après ça, ça va être c'est l'effet d'entraînement nécessairement au-delà de cette introduction-là qui va se faire. Fait que ça prend juste ça pour l'instant. Puis c'est pas juste juste d'en parler parce que les gens aiment ça, pas juste le voir, ils veulent le croire, ils veulent l'essayer aussi.
Mais c'est exactement ça le plan. Là.
Ouais.
Dans le bêta, Steve, on a invité 4 type d'organisation à venir le tester pendant 1 ou 2 semaines, puis après, on fait un atelier avec eux pour voir est-ce que ce qui a été fait correspond à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans une plateforme comme ça? Parce que c'est important qu'on réponde aux besoins, comme le disait Jean-Luc tantôt. On doit être à l'écoute, puis ce qui est complètement le contraire des startups. Startups, c'est je fais quelque chose, puis je me dis, moi, je suis le prochain Steve Jobs, ça va marcher parce que je pense que ça doit être ça. C'est pas ça l'UX. Le UX, c'est je m'assois avec les gens, puis j'analyse les besoins, puis après ça, je conçois quelque chose qu'on a fait jusqu'à date, puis qu'on va continuer à faire. Ce qu'on a dedans, ça a l'air bien anodin, puis qu'on le voit pas souvent dans des SaaS ou dans n'importe quel réseau social, c'est un bouton commentaire en haut. Y a-tu un bug? Y a-tu quelque chose qui marche pas? On revient au crowdsourcing, on revient à aller demander au bon peuple. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis dites-moi là, on le rentre dans la base de données. Surtout qu'avec l'arrivée de l'IA, ça va être bien plus facile à analyser que ça l'était il y a quelques années. Mais c'est des petites mesures comme ça qui fait la différence entre un réseau ou n'importe quel site qui n'écoute pas et qui se dit, moi, j'ai la vérité, puis je vais adapter. Puis je vais... Non, il faut être à l'écoute. Puis c'est super important. Si on dit qu'on est en train de concevoir quelque chose qui vient de la base, bien, il faut l'écouter, la base.
C'est la logique de la coop. Fait que, sociable, on cherche des amis, mais on cherche aussi des gens qui vont venir contribuer et qui croient à la mission. Pour nous aider à défaire ou faire cette vision-là.
Ça n'a pas besoin d'être 40 heures semaine. Vous avez 5 heures à mettre, venez nous voir. Là.
Oui,
exact.
Yes.
Mais, merci pour la vitrine, messieurs.
Oui. Ouais,
puis vraiment. Nous challenger, c'est toujours agréable. Là. Puis actuellement, on fonctionne par Discord principalement. On a un canal Discord qu'on
discute. Ça va disparaître sous peu. Ouais.
On va changer
un jour. Pour l'instant, on est là, mais on va transférer quand ils vont fonctionner. Là. On est prêt à des DNS actuellement, fait que ça va être réglé. Là. Puis on va pouvoir avoir.
Ça, la petite feature va apparaître.
C'est ça s'en vient, mais pour l'instant, c'est ça. Tout le monde est invité. On a des sous-comités qu'on se rencontre chaque semaine. T'es là si tu peux, si t'es pas là, si tu peux pas. Puis c'est vraiment. Comme
on va voir, ça va être. Le Discord sera dans les show notes. Puis sinon, juste besoin d'écrire à moi, au Hackfest ou simplement au podcast et on vous donnera les instructions. Merci, messieurs. Super le fun.
Merci à vous.
Steve. On avait des nouvelles. On s'en a fait un autre cette semaine. Steve, pour les nouvelles, je pense.
Oui, en même temps, les nouvelles sont là pour être lues aussi. Je voulais juste laisser le point suivant que les infrastructures essentielles sont présentement quand même testées, sont vraiment sous attaque depuis deux semaines. Pas juste au Québec. Au Québec, on a eu l'histoire de Saint-Noël. Il y en a un autre qui n'a pas sorti publiquement, mais qui est en Ontario, même deux, en fait. Puis j'ai une rumeur qu'il y en aurait une quatrième au Québec aussi. Mais c'est loin de l'ampleur que les États-Unis prennent. Il y a au-dessus d'une quarantaine d'usines qui ont été frappées, soit par le groupe Cyber Avengers ou bien le groupe Handala, deux groupes à connotation iranienne. On peut faire la corrélation que c'est directement en lien avec les conflits au Moyen-Orient. Mais est toujours bien, que j'ai bien aimé dans le New York Times, c'est un éveil à toutes ces années que tout le monde le disait, il faut sécuriser les infrastructures essentielles, les contrôles industriels et surtout c'est connecter un contrôle industriel qui n'a pas zéro sécurité dedans. Il y a peut-être une architecture à faire, il y a une préparation. Et
quoi? Connecter des choses sur le web qui n'ont pas d'affaires là?
C'est mal, comme dirait Francis. Fait que, puis en dernier lieu, ben, Jacques a commenté sur justement les Desjardins qui vont aller héberger des données financières chez un fournisseur américain. Je suis juste surpris un peu. Qu'est-ce qui manquait ici au Québec pour qu'ils puissent être hébergés ici, ces données-là, ou au Canada, du moins? C'est un bout d'évidemment.
Qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, là, des lobbies, des choses du genre? Là.
Peut-être, mais c'est ça qui serait intéressant à savoir. Parce qu'on ne le saura jamais parce que c'est de l'information propriétaire de l'entreprise. Mais on parlait de souveraineté des données, puis ça en fait partie. Qu'est-ce qui nous manque pour prévenir d'avoir ces données-là ici en sol canadien, en sol québécois? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, la situation? Parce qu'on le sait très bien, là, il y en a quelques-uns là, qui déchirent leur chemise en public pour que ça se fasse, mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Que pourquoi ça n'arrive pas? Moi, c'est ça qui m'échappe
un petit peu. Personnellement, moi, je pense que c'est un gros manque de connaissances que les clouds existent au Canada, là, pas au Québec. Tu vois, mon application, là, je viens de la déployer sur un cloud canadien que je n'avais jamais entendu parler de ma vie. C'est quelqu'un qui me l'a référencé. C'est 100% Canada, c'est une entreprise canadienne, c'est un cloud du Québec. Ils sont Montréal, Toronto et autres. Ils ont des places en Europe, mais leur headquarter, c'est Montréal, Ottawa, whatever, Canada. Jamais entendu parler de ça avant. Ouais, ça s'appelle SimNet, mais c'est du business to business. Fait que c'est sûr que quand tu te fais compétitionner Amazon, que tu ouvres un compte avec une carte de crédit, c'est différent.
Oui.
C'est la facilité.
Oui, c'est pas juste la facilité. L'approche US, l'approche Silicon Valley puis les VC,
j'entends c'est 50% la facilité budget
en marketing.
Oui, j'entends la facilité intellectuelle. On se casse pas la tête, ça vient d'ici, c'est pas bon. Oui, on avait même des développeurs au début de Sociable qui disaient « Non, mais ça va être tellement plus facile si il y a des composantes sur Amazon qui vont nous faciliter le travail. »
C'est sûr.
Oui, mais on n'arrêtait pas de dire « Oui, puis on n'arrêtait pas de dire « Mais non, c'est contre-indiqué par rapport à ce qu'on veut faire. Pourquoi on irait sur Amazon maintenant? C'est exactement le contraire de ce qu'on essaie de faire. »
Non, c'est ça.
Pas de sens.
Mais tu as raison, la facilité est là-dedans. Mais cette facilité-là, c'est parce que tu n'as pas de connaissances sur les autres ou tu ne veux pas faire l'effort. Là, mais...
Tu ne veux pas. Facilité.
Facilité. Non. Les options existent.
Oui.
Mais malheureusement, puis tu sais, dans cette facilité-là, c'est du marketing. Si je te dis on s'en va sur un cloud, c'est quoi le premier mot que tu penses? C'est pas une compagnie de Québec. C'est le mot AWS. C'est plate, là, mais c'est la première chose que tu vas penser parce qu'ils ont investi des milliards en maudit marketing. Mm-hmm. Puis le gars, ici, il a mis 500$. C'est pas le même game. C'est partout. Ouais, ils font ces arrêts de bus partout. Non, c'est ça. Fait qu'on s'en va là, pensez-y. quand vous développez quelque chose dans vos entreprises, gouvernement, ville, whatever, arrêtez d'aller dans nos Microsoft et autres de ce monde. Tout existe localement ou presque. Si ça n'existe pas, dites-les, puis il y a quelqu'un qui va faire la start-up, là, c'est le temps. Ça va vite, les preuves de concept avec AI. Oui. Bon. Ben, merci tout le monde. On s'en va dans deux semaines ou avant si on se reparle de certains sujets.
Right on.
OK, lâchez pas. Puis allez voir les réseaux sociaux. Venez nous voir au Hackfest. Les inscriptions sont ouvertes. Merci tout le monde. Bye.
Over and out.
Oh shit, attends un peu. Ben oui, faut que je pèse. Over and out. There you go.
The French Connection.